Bonjour, c'est André Manoukian, vous écoutez Pom Pom Pom. Ah non, vous écoutez Pom Pom, vous écoutez Pop Pop Pop, voilà. Mais après, ça dépend de à quelle époque on se passe, hein, parce que même le Pom Pom Pom, en fait, il était super Pop Pop Pop. Parce que les meufs, elles tombaient dans les pommes quand Beethoven y jouait, quoi. C'était une super pop star à l'époque. Bon, allez, il faut faire court, hein, c'est ça? Allez, Pop Pop Pop, c'est parti!
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, je suis tout à fait partant pour qu'on me change les idées, et donc les vôtres. Le 13 novembre restera à jamais une date de deuil, de sang et de larmes. Le jour où des commandos d'islamistes ont passé à la sulfateuse des terrasses de cafés parisiens, et bien sûr le Bataclan, où, degré de séparation parisien oblige, nous connaissions tous une ou plusieurs des victimes. C'était il y a 4 ans déjà, et j'ai l'impression que c'était hier. Voilà pourquoi je déteste les 13 novembre, et ce jour-là, il me faut du lourd pour me faire penser à autre chose. Du très lourd, d'autant plus que c'est le jour qu'a choisi Raymond Poulidor pour nous quitter. Et bien sûr, on ne lui tiendra pas rigueur pour une fois de nous avoir grillé sur la ligne d'arrivée. Mais quand même, c'est une bien triste nouvelle. Bon, alors, c'est quoi le lourd tant attendu? Eh bien, c'est une BD, un western, autrement dit le dépaysement total en même temps que le plus familier des terrains de jeu. Mais ce western-là a non seulement le mérite de nous émerveiller par sa virtuosité, mais en plus celui de nous emmener balader loin de nos préoccupations et de nos chagrins du moment. Pour dire les choses simplement, c'est une pépite de fiction qui nous console à elle seule de notre terne réalité, et pas seulement celle de ce 13 novembre. Ces deux auteurs, Jérôme Félix et Paul Gastine, sont les invités de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Bonjour Jérôme Félix, bonjour Paul Gastine.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est Jérôme et lequel est Paul?
Jérôme.
Jérôme, non, donc vous êtes Paul.
Voilà.
Ok, très bien. Donc vous êtes
Jérôme.
Jérôme, d'accord, ok. À mes côtés, ma co-girl préférée. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine, bonjour messieurs.
Joli lasso.
Ouais, n'est-ce pas?
Ah non, c'est un petit sac à main, pardon. Avec nous tout à l'heure dans le saloon de Pop Pop Pop, la première autobiographie d'une intelligence artificielle. On en parlera avec Jocelyn Borda en deuxième partie. Mais avant ça, Jérôme Félix, bonjour. Paul Gastine, ici, il existe une question que je pose toujours.
C'était écrit par une intelligence artificielle, non?
Ici, il existe une question que je pose toujours avec une brindille dans la bouche en vous fixant les yeux dans les yeux. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, hein, j'ai eu des réponses cow-boyisées, saloonatives et même jolly jumpeuses. Et parmi mes préférées, il y a celle du réalisateur du western Les Frères Sisters, Jacques Audiard. Écoutez.
C'est ce qu'a trouvé le capital pour transformer les jeunes d'après la guerre en consommateurs. Mmh. Les fameux enfants du baby-boom sont devenus instantanément des chouettes consommateurs de micro-signes.
Voilà, ça c'est Jacques Audiard. Et pour vous, Jérôme et Paul?
Pour moi, la pop culture.
Non.
Non, Jérôme.
Qui vous voulez?
Jérôme.
Pour moi, la pop culture, c'est ce que j'étais tout seul à aimer quand j'étais petit dans ma petite ville de province, et ce que tout le monde aime maintenant.
Très bien. Et
c'est
vous,
pas
Paul?
Mal, hein?
Ouais, ouais,
c'est pas
c'est
mal,
très bien.
Mal. Ouais.
Paul?
Pour moi, la pop culture, c'est individuel. J'ai la mienne, les autres ont la leur. Je pense qu'il y a autant de pop culture qu'il y a de gens. Je pense que c'est un reflet plus ou moins grand de la personnalité des gens selon les personnes.
Il y a quoi dans la vôtre?
Très
intrusive, hein, dès le début de l'émission.
Non, il y a énormément de choses. Ça passe par tout. Je ne saurais pas dire.
Ça passe partout, d'accord.
Ça passe partout.
Bon, ça passe partout. La pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Hero. C'est un nouveau morceau de Michael Kiwanuka.
Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now?
loved you like a brother. It's on the music and I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now.
Hero de Michael Kiwanuka, cet extrait de l'album Kiwanuka. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec deux personnes qui tirent plus vite que leur ombre. Qui sont-ils ? Indice, il ne s'agit pas de Jackie Michel. Arrêtons donc le suspense et passons au pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, messieurs, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, pop, pop.
Et c'est signé par Paco Girl, Charline
Rau. Yeah !
Allez.
Aujourd'hui, deux invités à qui j'ai envie de dire que je ne suis pas dupe. Ah, on me la fait pas, moi, non, non. C'est pas parce que vous venez nous raconter une histoire de cow-boy héroïque que j'ai pas compris qu'en réalité vous étiez plutôt Wild Bill et le Kid. Bah si, Jérôme, vous me semblez assez wild. Déjà fondé un fanzine répondant au nom de Kamasutra Cocaïne, c'est quand même un indice. Vous, Paul, votre précocité vous trahit, puisque selon votre biographie officielle, dès 18 mois, vous dessinez sur des post-it sans déborder du cadre. Ce que aujourd'hui, à mon âge canonique, je ne suis toujours pas capable de faire. Alors, c'est pas votre premier méfait collectif hein, qui viendra non plus nous contredire. Hein, l'héritage du diable, des voleurs, des abbés qu'on élimine, des secrets, un pouvoir hérité du malin. Si ça, c'est pas une transposition de l'impitoyable Far West à Rennes-le-Château, je ne m'y connais pas. Et pour le coup, je le confesse, c'est le cas. Je ne m'y connais pas. D'où le fait que mon cerveau malade vous projette en hors-la-loi du Grand Ouest et de BD. Mais bon, je sais de source sûre. Ça, je peux l'affirmer dès maintenant. Mes yeux en témoignent, en l'occurrence. Jusqu'au dernier, la BD qui vous amène aujourd'hui est une merveille d'histoire impitoyable et un régal esthétique et crépusculaire. Allez, envoyez le tumbleweed.
Mais le voici, Charline. Incroyable miracle de la radio. Hein. Bon, revenons sur cet épisode de Kamasutra Cocaïne, Jérôme Félix.
C'est qui vous allez y échapper ?
Rapidement, bien sûr.
Je ne l'avais pas dit à mes enfants, ça.
D'accord, ils écoutent ?
Ils écoutent.
D'accord, donc on n'en parle pas ?
Non.
Vous leur expliquerez en rentrant à la maison ?
Oui.
Hein, les enfants, quand papa rentre à la maison, vous lui dites, c'est quoi cette histoire de Kamasutra Cocaïne ?
Ah, qu'est-ce qu'un fanzine ?
Bon, sera-t-il question de Kamasutra et de cocaïne dans la séquence qui va suivre ? Réponse avec votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, Jérôme Félix, vous choisissez Hollywood Story, l'autobiographie de Frank Capra. Charline, je fais partie de ces gens qui pensent que le monde irait bien mieux si on regardait plus souvent des films de Frank Capra. Alors le voir, c'est bien, le lire, c'est bien aussi ?
Oh, je le pense, oui Antoine. Toujours inspirant, cette histoire d'un petit émigrant italien qui, à force de travail et de ténacité, devient un des princes d'Hollywood.
Merci. Jérôme Félix, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Le problème, c'est qu'on ne peut pas raconter une histoire au cinéma sans méchant. Les cinéastes redécouvriront donc leurs vieux ennemis de toute l'humanité. Ils avaient nom folie, pauvreté, maladie, guerre. Étant haïs et craints par tout le monde, ils constituaient des scélérats idéaux. Le méchant se désincarna petit à petit pour devenir une idée, un état d'esprit ou un état.
Les Hollywood Memories de Capra, c'est un guide aussi pour un scénariste, pour le scénariste que vous êtes ?
Bah, je suis comme vous, je pense qu'on devrait tous voir des films de Frank Capra. Ce qui est impressionnant dans la vie de Frank Capra, c'est que sa vie, c'est une histoire de... C'est comme un de ses films. On a l'impression qu'il y a un scénariste qui a écrit la vie de Frank Capra. Ouais. Et ça a donné un bon film, en fait. Donc, pour moi, Frank Capra... c'est tout ce que j'aimerais savoir faire, c'est tout ce que j'aimerais réussir. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui part de rien, qui veut d'abord réussir pour son ego, et puis qui a un drame personnel, puisque le jour où il a l'Oscar, il perd son enfant. Et à partir de ce moment-là, il se dit qu'il ne peut pas faire des films que pour lui, que pour sa satisfaction, mais qu'il doit les faire pour rendre le monde meilleur. Mmh. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà.
Alors, jusqu'au dernier, on ne va pas dire que c'est un scénario de Capra, hein. c'est un récit assez sombre, d'accord ?
D'accord.
Oui, d'accord.
Avec un bon méchant, comme c'est préconisé dans l'extrait.
Avec un bon méchant, comme c'est préconisé, tout à fait, Charline. Bien. Passons maintenant au film. Oui ? Non, la série d'abord, Paul Gastine. Ne me regardez pas comme ça. Vous avez opté pour True Detective saison 1, et vous précisez bien, saison 1, une série créée et écrite par Nick Pizzolatto, réalisée par Kari Fukunaga, pour la première saison diffusée depuis 2014 sur HBO. Charline, si je ne m'abuse, c'est encore une histoire de duo. Est-ce à dire que Paul Gastine a tendance à voir le monde sous le prisme du couple?
Peut-être, mais alors du coup, je le laisse trancher pour savoir s'il est plus Rust Cole, l'ésotérique, ou Marty Hart, le pragmatique, respectivement incarné par Matthew McConaughey et Woody Harrelson, chargé de résoudre l'assassinat d'une jeune femme coiffée de bois de serre et tatouée de dessins sataniques.
Toute notre vie, ce qu'on a vécu, ce qu'on vivra, nos amours, nos haines, nos peines, c'est la même chose. C'est le même rêve. Et comme dans beaucoup de rêves, il y a un monstre qui arrive à la fin. Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle.
Eh oui, ne me regardez pas comme ça, c'est la VF, on a des quotas sur France Inter, c'est comme ça. Alors pourquoi cette série-là? Et pourquoi surtout cette première saison et pas les autres?
Parce que j'ai vu que celle-là.
Ah, bah oui, c'est une bonne raison. Ouais. Bah restez-en là, j'ai envie de dire. Non, c'est la meilleure, non?
Oui.
Oui, c'est la meilleure.
Cette série-là, parce que j'avais tout simplement, parce que je me suis jamais pris une telle claque aussi rapidement devant une série télé. Chaque épisode est un film, et dès les trois premières minutes, j'étais complètement happé de la première à la dernière minute. Et l'ambiance est incroyable, les acteurs sont... Enfin, tout est parfait pour moi dans ce... Alors, la trame est très très sombre, mais elle est...
Ah oui, c'est pas du Capra.
C'est le prétexte à aller explorer des tensions entre les personnages et accentuer des contrastes entre effectivement les deux enquêteurs. Et j'ai trouvé qu'au niveau des personnages, c'était très très bien écrit et voilà, ça m'a soufflé, quoi.
Mais bon. Alors du coup, vous êtes plutôt l'ésotérique ou le pragmatique?
Plutôt ésotérique.
Très bien.
J'ai l'impression que les ouvrages dont vous avez parlé il y a quelques instants tendraient à aller dans ce sens-là.
Ouais.
Très bien. Alors Jérôme, je reviens à vous. Pour le film, vous avez choisi, vous, Blade Runner. C'est un film réalisé par Ridley Scott, sorti en 82. Charline, un film d'anticipation qui, pour une fois, n'anticipait pas n'importe quoi, n'importe comment. Une référence pour nous deux qui avons tant de mal à anticiper ce que nous allons faire le soir même, n'est-ce pas ?
Vous mangez quoi ce soir ? On fait rapport. Un modèle même. Le film se déroulait à Los Angeles en 2019, dans un univers peuplé d'hommes et de femmes, fuyant les mégalopoles devenues insalubres et peuplé aussi de réplicantes des androïdes que rien ne peut différencier de l'être humain.
Il y a eu une évasion d'une colonie de l'espace il y a 2 semaines. 6 réplicants, 3 mâles, 3 femelles. Ils ont assassiné 23 personnes et volé une navette. Il y a 3 nuits, ils ont essayé de pénétrer à la Tyrell Corporation.
Qu'est-ce qu'ils cherchent à la Tyrell Corporation?
À toi de me le dire, mon vieux, c'est pour ça que je te paie.
Je m'appelle Rachel.
Deckard.
Il dit vous êtes un Blade Runner.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.
Et oui, c'est encore une VF, car c'est la journée de décotage, j'ai l'impression, hein, sur France Inter aujourd'hui. Dites-moi, Jérôme, il avait raison ou pas Ridley Scott, finalement?
Je pense que c'est un réplicant. Mm-hmm. Je pense que Descartes est un réplicant, mais voilà. Après, ça devrait être Philippe Caddy qui devrait nous le dire. Voilà, du coup. Non, mais c'est vraiment un beau film. Je trouve que c'est comme un poème, en fait. On peut le revoir, on le connaît par cœur et c'est toujours beau. Mm-hmm. Donc, il y en a certains qui vont à Lourdes comme pèlerinage. Moi, je regarde Blade Runner une fois par an.
Chacun. Un film qui n'a pas vieilli, qui n'a pas été atteint par le. Hein,
non, c'est beau, c'est intelligent. Et puis, il y a ce méchant incroyable. Je crois que Hitchcock disait hein, plus le méchant est bon, plus le film est bon. Ouais. Ben Blade Runner, il y a un méchant parfait.
Ça fait 2 fois que vous parlez de méchant. Entre le livre et le film.
Les méchants, ça vous travaille. Ouais.
Ça le connaît, les méchants, Jérôme. Bien, terminons cette pop liste avec la chanson culte de Paul Gastine. Et cette chanson, c'est celle-ci. And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear. And state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Ben oui, elle l'a fait à sa manière. My Way par Nina Simone. C'est l'adaptation de la chanson Comme d'habitude, composée et interprétée à l'origine par Jacques Revaux en 67, interprétée d'abord par Claude François. Eh oui, souvenez-vous, comme d'habitude, je te bouscule. Pour autant, je vous en remercie.
Ne me réveille pas.
Vous choisissez plutôt la version Nina Simone, donc.
Étrangement.
Oui. Mmh. Pas étrangement, c'est tout simplement que, c'est que mes parents avaient un album de Nina Simone, un CD quand j'étais petit. Et de ses hits, je crois, une sorte de best-of. Et cette chanson-là, je l'ai écoutée au casque, mais jusqu'à les rendre dingues, mes parents. Mais je l'ai écoutée en boucle et elle est entrée dans mon ADN.
Voilà. Qu'est-ce qu'elle a cette chanson?
Je la trouve, la manière dont je comprenais absolument rien de ce qu'elle racontait quand j'étais môme.
Ouais, elle se réveille le matin, elle bouscule.
Je crois pas. Non, justement,
c'est la traduction des paroles. La version américaine, c'est plutôt le bilan d'une vie. Ouais. Et donc aujourd'hui, maintenant que je suis en âge de la comprendre, je trouve la chanson sublime. Les paroles, voilà, c'est vraiment émouvant, mais surtout, c'est musicalement, il y a une espèce de crescendo jusqu'à un final super dramatique et gamin, ça me transportait. Voilà.
Alors spécial trivia, Charline, qu'est-ce que vous m'appreniez tout à l'heure?
Mais grâce à la rédaction de France Inter, que allez-y. La chanson fête ses 50 ans ce mois-ci,
oui.
Me semble-t-il.
Oui. Et,
voilà.
Et
qu'a priori, Bowie aurait proposé une version du texte pour la version originale.
Bravo, merci la rédaction de France Inter. Bien, alors je résume Hollywood Story, True Detective, saison 1, Blade Runner et Nina Simone. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
Now, toute notre vie, c'est la même chose. So
qu'est-ce qu'il cherche à la Tyrell Corporation?
Le problème, c'est qu'on ne peut pas raconter une histoire au cinéma sans méchant.
Et comme dans beaucoup de rêves, il y a un monstre qui arrive à la fin. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Ça risque de vous faire tout drôle.
Est-ce qu'on va dire que c'est le mix parfait entre Jérôme Félix et Paul Gastine, nos deux invités aujourd'hui, venus nous parler de Jusqu'au Dernier, leur BD western?
Ça donne envie.
Ouais. C'est pas mal comme teaser.
Vous y retrouvez. Très bien. Alors, Jérôme, Paul, avant de parler de BD avec votre excellentissime Jusqu'au Dernier, je sais, j'en fais beaucoup, mais
ça
c'est
mérite.
Pas fini. Ouais. Je vous plonge dans l'ambiance western avec le Rocky Raccoon des Beatles.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy.
Pop, pop, pop. Antoine Decaune
et Charlene Rowe. Western Stars, Western Union et Western Spaghetti sont les premiers résultats qui tombent quand on tape Western sur Google. Mais aujourd'hui, on parle de vrai Western.
Mais arrêtez de cracher quand vous êtes en studio, c'est pas très hygiénique.
Jérôme Félix, Paul Gastine, nous vous recevons donc pour parler de Jusqu'au Dernier, la BD Western que vous venez de publier aux éditions Grand Angle. Alors, disons les choses simplement, hein, on a eu ce qu'on appelle communément un coup de foudre pour cet album, une réussite spectaculaire dans un genre non seulement codifié à l'extrême, mais où se sont distingués les plus grands. C'est simplement renversant, je vous le dis simplement, en vous regardant dans les yeux, tant du point de vue de la narration que du dessin, et on va donc commencer par ça, bravo. C'est toujours bon à prendre.
On peut mourir.
De
quoi ça parle jusqu'au dernier, Charline, je vous laisse nous résumer l'histoire.
Russell a décidé de raccrocher ses éperons, comme on dit dans le Far West, pour devenir fermier dans le Montana. Il fait un dernier voyage, il est accompagné de Bennett, un jeune simplet de 20 ans. Il décide de faire halte à Sundance et au petit matin, on retrouve Bennett mort. Alors le maire préfère penser à un accident hein, plutôt qu'à l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses concitoyens. Russell, lui, ne l'entend pas ainsi et revient à la tête d'une bande d'outlaws pour exiger la vérité sur la mort du jeune Bennett. À l'origine, vous vouliez vous lancer dans un récit d'heroic fantasy, messieurs. Qu'est-ce qui vous en a fait dévier ?
ce qui nous en a fait dévier, c'est que à l'époque, il était question de le faire en deux tomes, voire en un seul. Et l'Heroic Fantasy, il faut créer tout un univers. Et créer tout un univers, s'y installer et y raconter une histoire en un seul tome, c'est pas envisageable. Enfin, trouvait pas ça envisageable à l'époque. Et Jérôme m'avait raconté deux scénarios qu'il avait en tête. On se demandait dans quel contexte les placer, historiques, pour pouvoir les dessiner avec mes acquis de dessin. C'est-à-dire que moi, j'avais appris à dessiner des vieilles pierres, des châteaux et des chevaux. Et comme on sortait de quatre albums avec les vieilles pierres, les châteaux,
on... comment s'appelait ce cycle?
L'héritage du diable. Et du coup, on a gardé que l'idée des chevaux et on s'est dit western.
Voilà. Est-ce qu'il y a des codes en commun entre le western et l'heroic fantasy?
Moi, je pense que le western est à ma génération ce que l'heroic fantasy est à la génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis de la génération dernière séance. Ouais. J'ai découvert le western, c'était notre évasion, notre fantasy, des grands espaces, des mondes où on pouvait mélanger à la fois la modernité avec la loi, les villes, et des univers où plus dangereux, l'ouest. La fantasy, c'est exactement pareil. La fantasy, il y a aussi de la magie, mais finalement, dans les westerns avec les Indiens, on peut en avoir un petit peu. Moi, je me rends compte que le western... en fait, aujourd'hui, les enfants, ça ne les intéresse plus du tout, le western, parce qu'ils l'ont remplacé par la fantasy. Donc, passer de la fantasy au western, c'était pas complètement incohérent pour nous.
Et c'est-à-dire que c'est un livre qui ne s'adresse pas aux enfants?
Mais tout le monde peut le lire.
Oui, je crois.
Paul, j'ai lu que vos références en matière de western seraient plus à aller chercher du côté du jeu vidéo que de Sergio Leone. Réalité ou fake news?
Réalité.
J'ai lu Red Dead Redemption, c'est ça.
Oui, réalité. En fait, j'ai joué à ce jeu-là, qui, pour le coup, m'a procuré une vraie immersion, et qui m'a donné envie. En fait, c'est plus un déclencheur qu'autre chose. Et ensuite, Jérôme m'a refait ma culture western en passant pas de Sergio Leone, plus des John Ford et des Howard Hawks, des choses comme ça.
Howard.
Et
Howard, c'est des récompenses.
Mais j'aime ces films.
Mais Howard, ça a reçu des récompenses.
Et du coup, non, le déclencheur, effectivement, ça a été un jeu vidéo. Un excellent jeu vidéo.
Le fait que vous soyez tous les deux normands, des petits gars de l'Ouest, le vrai, est-il besoin de le préciser, a-t-il quelque chose à voir avec cet intérêt pour le western? Pas du tout, vous pouvez répondre.
Si, moi je pense que je suis né du côté de Vire, là-bas c'est l'Ouest.
Ah oui,
donc
des tumbleweeds partout.
Ouais, exactement.
On va vous prendre comme psychologue, vous comprenez tout de nous.
Quand on s'attaque au genre western en BD, on se fait des petites sueurs froides ou bien on y va sans se poser de questions? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un genre qui a été fréquenté par les plus grands.
On se fait des sueurs froides quand quelqu'un vous en fait la remarque, en fait. Quand on vous dit c'est sûr que... Mais en fait, moi, comme c'était mon premier western et que j'avais tout à apprendre à dessiner, j'avais pas le temps de me poser ces questions-là. Du coup, j'avais la tête dans mes pages et j'ai fait du mieux que j'ai pu. Voilà.
Sans ça, trop c'est votre premier western?
Oui.
Ok.
Ouais. Qui dit western, parce que c'est pas un mot du tout. Qui dit western dit pas franchement le royaume de la tendresse, la gâchette est souple et rapide, donc les morts nombreuses. Pas du tout. Comment aborde-t-on ces scènes-là à l'écriture et puis ensuite au dessin?
À l'écriture, en fait, les duels doivent être rares et les morts doivent toucher. Donc si on veut que les morts touchent, il faut qu'on se soit attaché au personnage. Ouais. En fait, les morts, ça peut être des figurants. Dans ce cas-là, c'est du gunflight. Voilà, ça tire de partout, c'est pas très intéressant. Donc finalement, on n'a pas tant de scènes de bataille que ça dans l'album, mais elles doivent toujours être au service de l'histoire. Et en fait, les scènes de bataille doivent nous apprendre des choses nouvelles sur les personnages. Donc chaque scène de bataille doit avoir une dramaturgie différente. Voilà.
Et au dessin?
Au dessin, je pense que le plus important, c'est dans ces scènes-là et surtout dans le western, c'est de faire passer l'intensité des émotions des personnages, notamment via le regard, avec ce fameux, on va dire presque cliché, du plan, ouais, du plan rapproché sur les yeux, ouais, avec la grosse goutte de sueur. Mais non, en fait, bah, j'ai appliqué, oui, j'ai appliqué cette recette-là. Enfin, appliqué cette recette-là. Moi, ma préoccupation première sur cet album, ça a été de faire passer les émotions des personnages, effectivement.
Et c'est réussi. On est dans un western crépusculaire, hein, comme on dit, une tragédie qui finit mal, comme toutes les bonnes tragédies. Le western a définitivement perdu toute forme d'innocence, à vos yeux?
Alors, notre western, il est rude, mais il y a quand même un enfant de sauvé à la fin. Mmh. Donc, il y a une petite note d'espoir. En fait, c'est une fin un peu mi-figue, mi-raisin. Mais oui, le western, c'est clairement un genre où on est habitué à ce que les héros s'en sortent pas toujours et surtout pas indemnes. Donc, il y a quelque chose de shakespearien, de la tragédie dans le western. Et surtout aussi parce que c'est des histoires en général très simples qui doivent donc être portées par des personnages très compliqués. Sinon, c'est pas très intéressant. Et donc, si l'histoire est simple, tout repose sur les personnages. Tout, tout, tout.
Vous allez encore m'accuser de militantisme, je vous vois me juger Antoine, mais je dois dire que dans Jusqu'au dernier, soit un univers très mâle, vous avez réussi à créer un personnage féminin qui n'est ni un prétexte, ni un accessoire, une institutrice que je qualifierais d'assez badass, Miss Collins. Comment est-ce qu'elle est née et pourquoi lui avoir donné physiquement un peu d'Ellen Page? Alors comment elle est née, c'est peut-être Jérôme.
C'est un hommage à ma femme. En fait, parce que ma femme professionnellement s'occupe d'enfants handicapés et tous les soirs elle me raconte comment elle se bat pour eux, comment elle essaie de faire des choses, elle est très très investie socialement et j'ai été très très touché par ça et en fait j'ai construit le personnage en me disant c'est elle et parfois même je lui disais devant cette situation comment tu ferais. Et quand elle me répondait de la manière dont j'avais imaginé les choses, je me dis bon ben c'est bien, je suis dans le bon.
Voilà. Et alors, Paul, pourquoi Ellen Page?
Parce que elle est un peu badass. non parce que je trouvais que je sais pas en fait c'est ça a pas été dans, très réfléchi dans un premier temps mais je trouvais que en lisant le rôle qu'avait écrit Jérôme et en castant mes personnages, du coup. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, faut que ce soit Ellen Page, une petite nana qui se bat pour... voilà. Bon, ça correspond plus à la vraie personne d'Ellen Page qu'au rôle qu'elle a pu avoir dans les films.
Charline Amontour, hein, vous allez m'accuser de militantisme, sans
bien
doute.
Bien sûr.
Pardon, hein, mais j'adore la manière, Paul, dont vous dessinez les chevaux. Alors, je ne suis pas dessinateur, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est coton.
Ouais, c'est... je confirme.
C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est quoi la plus grande difficulté dans un récit western?
Techniquement, il y en a plein. Moi, je suis très fâché avec les chevaux. Je suis encore très fâché avec les armes et avec les trains.
Et ça fait beaucoup.
Et avec les
vaches.
Vous
avez bien fait de faire un western, du coup.
Ouais. Je me suis beaucoup amusé sur cet album. Non, en fait, c'est vraiment des choses que j'avais jamais dessinées avant. Les rares chevaux que j'avais fait avant, bon, j'avais appris à les dessiner. Ils ressemblaient à peu près à des chevaux, mais c'était pas grandiose. Quant aux trains, aux vaches et aux Colt et aux Winchester, j'avais jamais touché à ça. Et j'espère avoir les bases. Il y a encore du boulot.
Non, ça va, franchement. Vous parlez de casting pour vos personnages. Alors, parmi les inspirations citées pour les messieurs, on trouve Anthony Perkins pour Bennett, un peu de Woody Harrelson et de Powers Booth pour les autres bonhommes. Pourquoi eux?
Tiens, Woody Harrelson.
Bah oui.
Trop détective. Tout se recroise. D'accord.
Pourquoi ces choix? Anthony Perkins pour le personnage donc de Bennett, qui est le petit simplet qui voyage avec nos cowboys, parce que j'ai toujours trouvé que Anthony Perkins, il avait une fraîcheur par rapport au panel d'acteurs de l'époque. Il est un peu
différent.
Il était différent, il était très très sensible et il apportait
De l'innocence, un peu de
là. Oui. Cherche un mot.
De dynamique.
On a besoin d'un scénariste, là. Oui,
voilà. C'est toi qui es censé écrire, Jérôme. De dynamique et surtout, pareil, physiquement, j'avais pensé à lui, une espèce de grande sauterelle, déguingandée, mais très attachant. Voilà, Anthony Perkins, quoi.
Moi, je confesse un léger crush pour le personnage de Kirby. Hein. Je ne sais pas si c'est normal, si ça a été étudié.
Expliquez-nous, Charline.
Bah, je trouve que le personnage est super. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop s'il est méchant ou pas. Et c'est une figure héroïque. Il a l'air assez jeune. Et on sent qu'il a le sens du sacrifice. Enfin, mm-hmm. Il a tout du héros comme on aime bien.
J'ai l'impression que vous parlez de moi.
Et je le trouve très beau.
Voilà. Oui, j'ai l'impression que vous parlez de moi. Alors, 15 ans de collaboration et la suite de Jusqu'au Dernier sera un nouveau western. Ça veut dire quoi? Que c'est un cycle qui démarre? Et si c'est le cas, il faudra penser à préserver vos héros, messieurs.
C'est un autre récit indépendant, mais dans lequel on retrouvera l'un des rares survivants de l'album. Mais voilà, on pourra lire quand même le prochain de manière indépendante. Et ça se passera cette fois dans les montagnes du Montana.
Bien, ça s'appelle Jusqu'au Dernier, c'est signé Félix et Gastine, c'est édité chez Grand Angle et c'est un livre extraordinaire. Est-ce que je l'ai assez dit? Est-ce que j'ai
non,
été clair?
Non, allez-y, répétez-le.
Non, extraordinaire. Mmh. Messieurs, vous savez faire plein de choses, on a compris, vous savez dessiner des trains, hein, des chevaux, vous savez raconter des histoires shakespeariennes. Est-ce que vous savez faire ça? Essayez quand même. Ah,
Paul,
ben
Louis.
Si, Paul Louis, Paul Louis, Jérôme, il y a encore du boulot.
Ça fait une semaine que je m'entraîne.
Ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est juste pour lancer les pop news.
Il lui aura fallu 7 ans d'introspection, de réflexion et les participations de Mathieu Kassovitz, Florence Foresti, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte ou encore Boris Dio. Mais ça y est, Platane, la série Éric Judor et Afid Benhama revient.
Il fallait prendre le temps nécessaire.
Tragédie.
Pour trouver l'équation suprême.
Ils étaient forts à l'époque.
Pour créer la série parfaite.
Carmina Burrata.
Carmina Burrata, le mec arrive avec les tomates.
Platane, saison 3. La création originale ultime d'Éric Judor. Bientôt sur Canal+.
Ah frère, je t'ai pas dit, mais la saison 3 de Platane, ça a annulé.
Qui t'a dit ça?
Le black, là.
Quel black?
Bah celui qui a le, tu sais, le défrisage carré plongeant.
Il y a un black avec un défrisage, un carré plongeant à Canal?
Bah oui, c'est tous comme ça à Canal maintenant.
Pardon, arrivée imminente sur Canal+.
Une surprise signée Beck dans les bacs, ou plutôt sur Amazon Music. Le chanteur vient de sortir un EP, intitulé Paisley Park Sessions, enregistré dans les mythiques studios de Prince. Un EP sur lequel on retrouve deux titres de Beck et un medley du Kid de Minneapolis. Il y a des exemples. Effectivement, ça me rappelle quelque chose. Oui. Paisley Park Sessions, c'est le titre de ce EP en attendant la sortie de l'album Hyperspace prévu le 22 novembre.
À tous les téléspectateurs en manque de crac-crac, soyez rassurés, vous allez devenir des auditeurs pleinement comblés. Crac-crac, l'émission de Monsieur Poulpe qui interrogeait toutes les pratiques sexuelles, devient un podcast pour lequel il sera accompagné de Camille Emmanuel, journaliste, auteur et spécialiste des questions de sexualité, et Maxime Donzel, co-créateur des tutotales d'Arte, qui viendra lui présenter un module pop-porn intitulé Culture Beat. Le podcast sera bimensuel, pardon, et ça démarre ce 15 novembre sur les plateformes dédiées.
France Inter. Popopop, Antoine Decaune.
Charline.
Beck?
Exactement, bravo, bravo, à chaque fois dans
il
le mille maintenant.
Il bah, est un peu muet,
oui. Ouais, okay. Merci Charline. Avant d'aller dans le turfu, hein, comme disent les millénials, pour parler intelligence artificielle avec Jocelyn Borda, qui réalise d'ailleurs au passage le fameux podcast.
Devinez.
Bah oui, ouais, tout est lié. Eh bien, retournons en 1974, écoutez Dolly Parton et son Jolene.
Because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. One for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you can. Jolene, Jolene.
Dolly Parton, Jolene, c'était en 74 sur l'album éponyme et c'est une spéciale dédicace à Laurent Chalumeau qui nous écoute. Pop, 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 l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Oh, bravo Charline.
Ouais, je me suis entraînée.
Bravo, bravo. Alors nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Félix et de Paul Gastine et vient de nous rejoindre Jocelyn Borda. Bonjour Jocelyn Borda.
Bonjour.
Connaissez votre point commun tous les trois?
Pas du tout.
Eh bien, vous faites tous partie de ce que Charline appelle la mafia camembert.
Oh là là.
Oui, car Paul Gastine, vous êtes né à Caen, vous Jérôme Félix, vous êtes né à Vire, la capitale de l'andouille, hein, et vous Jocelyn Borda à Deauville.
Oui, tout à fait.
Il y a aussi beaucoup d'andouilles et moi, je ne jure que par Trouville.
Je n'en peux plus.
Vous allez à Villers-sur-Mer.
N'entamez pas ce débat ici, je vous en supplie, sinon nous allons prendre sur votre temps de parole. On tolère la présence d'une picarde parmi nous?
Non, pas du tout, c'est impossible.
Alors, je suis bien plus badass que vous quatre. Okay. Si vous voulez jouer à la bagarre.
Voilà pour le point camembert. Jocelyn Borda, vous êtes au cœur du réacteur de la pop culture, car vous êtes le cofondateur du site Pop Brain avec sa célèbre page pute. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur la culture web, le créateur de nombreux podcasts et le rédacteur en chef de l'émission Poulpo Vision sur Canal+. Aucun lien entre la page pute et Poulpe, bien sûr.
Je dirais qu'il y a 17% de lien entre les deux.
Et à quand la page Poulpe pute?
C'est une belle idée. Faut que j'en parle avec lui, avec ses avocats, pour des questions de marque.
Bien sûr. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter le underscore 0 underscore et underscore le underscore 1 point texte.
Ah, je suis content, vous l'avez bien dit.
Vous avez déjà vu ce genre de titre chez Flammarion depuis Émile Zola?
Non, en fait, je crois que ça n'a pas été fait souvent. Comment je le sais? C'est parce que ça a été un peu une galère pour des questions de référencement et de caractère.
Donc
on s'est rendu compte en faisant le titre que sans doute ça n'avait pas été fait parce que c'était chiant un peu.
Aucun rapport avec le brûlot antistaliniste d'Arthur Kessler, Le Zéro et l'Infini, publié
non.
en 1940.
Alors, il n'y a vraiment aucun rapport.
Aucun rapport.
Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à préciser, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux livres. Ouais. C'est vraiment un point sur lequel j'ai voulu être vraiment...
Très clair dès le départ.
Ouais, tout à fait.
Bien. Dans votre livre, Le Zéro et le Un, toute la planète pop se croise. Ça va de Stanley Kubrick à Elon Musk, en passant par les Daft Punk. Alors, vous ne pouvez pas y échapper, mon cher. Mon cher. Cher.
Ah.
Non, pas du tout. Ça, c'est, voilà. Là, c'est clair,
tain,
Sophie
tain,
Collet.
Tain.
Voilà.
C'est bon,
faites-le moi. Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Bon, bah, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je vais essayer de trouver une définition qui a un rapport avec le nom de l'émission, parce que j'ai remarqué que dans votre habillage,
vous
exploitez pas mal. Je dirais que pour moi, la pop culture, c'est un peu comme les fenêtres pop-up.
Ouais.
Vous voyez, sur les ordinateurs.
Ouais.
En gros, c'est un ensemble d'objets un peu bizarres ou inattendus qui ont fait irruption un peu dans la culture légitime, ce qu'on considérait avant comme étant de la culture. Donc c'est des objets qui sont devenus pour nous de la culture, alors qu'a priori c'est pas intuitivement le cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon bah Bruce Springsteen, c'est de la culture.
Bien.
Oh là là, le faillot.
Comment c'est travaillé,
la Game Boy.
Votre bouquin est remarquable.
La Game Boy, c'est de la culture. Ouais. Et des versions de Springsteen jouées avec des sons de Game Boy, ça c'est ultra pop.
C'est ultra
donc
pop.
En gros, d'accord. Ce qui est pop pour moi, c'est quand c'est mélangé. D'ailleurs, vous avez, je crois que c'est le cas pour vous, puisque vous avez un son de mixeur à un moment. Donc c'est quand c'est mélangé et c'est quand on traite les choses futiles de manière sérieuse et les choses sérieuses de manière futile.
Ça me convient tout à fait. Charline, vous validez ?
Oui, je suis pour. Bon. Enfin, c'est un truc de Normand, mais c'est pas...
Le 0 et le 1, c'est l'histoire de deux chercheurs qui travaillent en 1955 sur une machine révolutionnaire qui prétend répliquer le cerveau humain. Ils sont persuadés qu'un jour, elle pourra parler, voir, écrire, et même être consciente de sa propre existence. Mais ils rencontrent trop d'embûches et de résistances et leurs travaux finissent par tomber dans l'oubli. Mais, en 2019, le narrateur de cette histoire nous ressemble. Il lit des romans, regarde des films et des séries, sauf que celui qui livre ici son autobiographie, d'une certaine manière, depuis les années 50, eh ben c'est une intelligence artificielle. Alors, comme je ne suis pas calé dans ce domaine, je laisse mon assistant personnel mener l'interview. Siri, viens ici. Siri ! Allez, vas-y.
Est-ce que tu peux expliquer à ce tocard l'intérêt d'utiliser une intelligence artificielle ?
L'intérêt en général ?
Oui.
Bah, je ne sais pas si j'ai besoin de vous l'expliquer. Vous avez un téléphone ?
Oui.
Vous prenez des Uber, des... Bon, donc en gros, on vit déjà entouré.
Non, faut reprendre tout depuis la base. Hein, là, je...
C'est vrai, pardon. Je croyais que vous étiez
pop. J'ai un téléphone.
Pas si pop que
oui,
ça.
Vous avez un téléphone, c'est
j'ai
ça, l'info.
Un scooter.
Non, mais en gros, moi, une des choses qui a fait que j'ai voulu écrire sur l'intelligence artificielle, c'est que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose dont on aura besoin dans le futur. Et d'ailleurs, on ne manque pas d'histoires dystopiques, de choses qui se passent en 2040, en 2050. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que l'intelligence artificielle, elle est déjà partout autour de nous, évidemment, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, partout. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'utiliser, elle est déjà là. Donc, moi, je voulais penser ce « déjà là ». Et mon point de départ, c'était de me dire, est-ce que ce serait pas marrant d'imaginer un personnage un peu de fable, un peu de fiction, qui serait une intelligence qui se réveille ? Donc ça, c'est un motif classique de la SF. Mais en général, les personnages d'IA qui se réveillent, on les situe loin dans le futur. Moi, je me dis, et si elle se réveillait
aujourd'hui.
Aujourd'hui. Ouais. Et en gros, tout le bouquin, c'est un personnage impossible, c'est-à-dire cette IA de fiction, qui commente toutes les IA réelles, les IA qu'on appelle faibles, c'est-à-dire celles qui ne se sont pas éveillées à la conscience. Et donc, en gros, c'est ça. C'est un personnage impossible qui analyse tout ce qui existe déjà autour de nous.
Siri, une autre question à Jocelyn, peut-être ?
Peux-tu dire à Antoine, s'il te plaît, que je vais moins aux toilettes que lui, et que je suis donc plus productif ? Je l'ai lu dans ton livre.
C'est vrai, ça.
Effectivement, mon personnage...
Les orgas, ouais, les fameux orgas.
Ouais, mon personnage se pose la question de savoir si le fait que les orgas, donc les êtres organiques, par opposition aux êtres artificiels, si le fait qu'on aille si souvent aux toilettes, c'est pas un frein à notre évolution et un frein à notre productivité, etc. Donc, je sais pas combien de fois vous allez aux toilettes par jour.
7.
D'accord, bah c'est peut-être pour ça que vous en êtes là. Peut-être que vous auriez une meilleure carrière si vous étiez allé moins aux toilettes.
Ouais, mais enfin bon.
J'ai changé de régime alimentaire. Ouais. Donc, Siri, une autre question.
Cette intelligence artificielle est comme moi fan de Kraftwerk et de Donna Summer. Elle découvre également la bibliothèque de l'humanité et YouPorn et ses milliards de vidéos. Y a-t-il quelque chose d'autobiographique dans ce livre ?
Ah, question un peu pointue.
Ouais, un peu. Oui, effectivement. Une des particularités du bouquin, c'est que c'est une intelligence artificielle un peu obsédée sexuelle, qui va tout le temps sur les sites de cul. Et en fait, je me disais...
Et là, on est dans la fiction pure, là, bien sûr.
Oui, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est de me dire... imaginons, par exemple, qu'une intelligence artificielle se soit éduquée au contact de l'évolution d'Internet et qu'elle ait consommé ce que les êtres humains ont mis successivement en ligne. Et ben, si cette intelligence artificielle s'était éduquée comme ça, elle aurait commencé par avoir des images de cul et consommer du porno. Et ensuite, dans les années, fin des années 90, elle aurait commencé à lire les classiques. Parce que historiquement, c'est ce qu'on a fait, nous, les êtres humains. On a d'abord mis des trucs de cul en ligne. Et ensuite, on s'est dit, voilà, il y a peut-être Dostoïevski aussi. Donc, ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi et qui est en général pas fait. C'est qu'en général, les IA sont pas trop des obsédés sexuels. Donc, la mienne, c'est son cas, et effectivement, par ailleurs, il y a un côté un peu autobiographique, au sens où j'ai bossé dans Crac-Crac avec le Poulpe sur des questions de sexualité, donc ça m'intéresse.
C'était des recherches, c'était purement professionnel.
Tout à fait. Et par ailleurs, c'est autobiographique au sens où l'histoire du bouquin, c'est un personnage qui commence sa croissance dans les années 50, dans un monde qui est complètement différent, et qui va petit à petit s'éduquer au contact d'Internet. Jusqu'à ce qu'à un moment, le personnage soit submergé par le flot de data Et ça, ça m'est arrivé personnellement. Moi, j'ai commencé ma vie comme j'avais une carrière plutôt d'universitaire. Et puis, Internet
était... Vous étiez Sciences Po, tout à fait classique.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
je voulais gagner de l'argent. Non, et en gros, ça m'est arrivé... comme mon personnage, c'est-à-dire que j'ai commencé par lire des livres, et à un moment, Internet est arrivé dans ma vie, et ma manière de m'informer, de réfléchir, donc de réfléchir plutôt par pop-up, par onglet, comme mon personnage, bah c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi.
Siri, ça va, t'as réponse à tes questions, donc tu rentres dans ton petit placard, s'il te plaît.
Je peux dire un truc sur Siri?
Allez-y, allez-y.
C'est pas la voix de Siri, c'est la voix de Google Trad, ça.
Ah, bien. Ouais, je crois que j'ai affaire à un expert,
Non, eh bien, peut-être que le Siri d'Antoine, il aime bien se déguiser.
Je voyais Paul et Jérôme vous écouter avec beaucoup d'attention. Là, ça pourrait faire l'objet d'un très bon scénario de BD, ça, non, cette histoire?
Surtout la partie YouPorn au dessin. faut qu'il s'attelle au scénario maintenant.
Le 0 et le 1, et je vous évite tous les underscores, c'est édité chez Flammarion. C'est Jocelyn Borda qui a écrit ça, c'est son premier roman. Bravo Jocelyn.
Merci
Jocelyn
beaucoup.
Borda, Jérôme Félix, Paul Gastine, on approche de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Tiens, j'appelle mon ascenseur. Non mais en fait ce soir, j'ai pas envie d'aller dans mon monde imaginaire. Non, j'ai juste envie de rendre hommage à Raymond Poulidor. Allez, musique.
Vas-y, Poupou, Raymond Poulidor.
Churène dans Pop 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 sur France Inter pour rendre un dernier hommage à Poulidor. Et oui, on ne dira plus vas-y Poupou, vu que bah ça y est, il y est quoi. Oh, ok. Avec goût. Merci Félix et Paul Gastine. Jusqu'au dernier, c'est édité chez Grand Angle et c'est plus que chaudement recommandé, une fois de plus. Merci Jocelyn Borda. Le 0 et le 1, c'est édité chez Flammarion et c'est recommandé aussi. Mais regardez pas comme ça avec ses yeux réprobateurs. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Claire-Sophie Picolet à la réalisation, à la technique Kevin Pelot, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël. Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop, une spéciale mode avec Mademoiselle Agnès et l'auteur de l'encyclopédie de la basket, Pierre Demoux. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse, bien sûr, à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos western ou SM sur YouTube, abonnez-vous à... à notre podcast.
Western,
bien visé, Charline. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.